Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Nous avons vu donc ce premier chapitre concernant la délivrance, ce chapitre concernant les péchés qui sont en abomination devant Dieu. Et il y a tout un listing de péchés qui sont en abomination devant Dieu, et nous avons commencé par la sorcellerie et ses dérivés. Nous avons vu pas mal de textes mardi dernier. Nous allons aller un peu plus loin. Mais je voudrais vous dire que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui gît sous la puissance de Satan. Ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre. Satan a une tactique, il a une méthode. Paul le dit, n'est-ce pas? Méthodia, en grec, veut dire il a une méthode. Il a une façon d'agir. Et le terrain sur lequel il est toujours gagnant, c'est sur le terrain de notre désobéissance. Ça, c'est clair. Lorsque nous désobéissons à Dieu, lorsque nous sortons de la clôture que Dieu a mise autour de nos vies, c'est-à-dire Dieu nous garde, en avant, en arrière, sur les côtés, Dieu nous garde, il nous a entourés de sa miséricorde et de sa grâce, et chaque fois que nous sortons en dehors de cette volonté divine de nous garder, l'Écriture nous dit que chaque fois que nous franchissons les clôtures, derrière la clôture, il y a un serpent qui mord. Ecclésiaste, n'est-ce pas? Chapitre 12, ceux qui connaissent la parole le savent. Chaque fois que nous sortons en dehors de la volonté de Dieu, nous nous trouvons exposés aux manigances du diable et de ses démons et de ses esprits avec lesquels il travaille. C'est pour ça que l'apôtre Jean va nous dire ceci. Il va nous dire, il va nous donner une recommandation qui est très forte. Il va dire ceci: celui qui est né de Dieu ne pêche plus, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Qu'est-ce que ça veut dire se garder soi-même? Ça veut dire savoir, n'est-ce pas? Savoir où nous ne devons pas aller, savoir où ne pas mettre nos pieds. Parce que nous savons que lorsque nous sortons des limites que Dieu nous a fixées, c'est des limites de sa grâce, c'est les limites de son amour, c'est les limites de sa miséricorde, où il nous a avertis, ne faites pas ces choses, ne faites pas ces choses, parce que vous vous trouverez confrontés à des problèmes. Alors, autant de notre ignorance, bien sûr, les problèmes, nous les avons eus. Mais maintenant que nous connaissons, ou plutôt que nous avons été connus de Dieu, alors là, maintenant, nous devons faire attention à la manière dont nous marchons. Donc, la sorcellerie, c'est quelque chose à laquelle Israël a été confronté, n'est-ce pas? D'abord, elle a été confrontée à cette façon d'agir du diable, déjà, en Égypte, n'est-ce pas? Elle a été confrontée à cette façon d'agir du diable en pays de Canaan, et nous avons vu pourquoi Dieu a donné Canaan à Israël. Pourquoi il avait fait cette promesse à Abraham et Isaac? Et pourquoi Dieu s'était servi d'Israël comme instrument de sa justice pour défaire toutes les peuplades de Canaan? Parce que ces peuplades-là pratiquaient toutes ces choses occultes. Nous avons vu dans le Deutéronome que Dieu dit à Israël, ce n'est pas à cause que tu sois meilleur que les autres peuples, etc., etc., mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations-là. Et Israël a été l'instrument de la justice de Dieu pour, n'est-ce pas, éradiquer le problème dans le pays de Canaan, bien que Dieu leur ait dit, vous leur ferez aucune miséricorde. Il y a eu un moment donné où ils ont laissé subsister, n'est-ce pas, au milieu d'eux, de tels personnages, de telles tribus cananéennes, qui ont été pour eux comme des piquants dans leurs yeux et comme des piquants sur leur côté. Et nous avons vu parce que Israël n'avait pas entendu les commandements de Dieu, ou n'avait pas obéi aux commandements de Dieu, qu'ils sont tombés dans les mêmes travers que ces peuples-là. Que ça soit les rois, ou que ça soit les prophètes, tous, ou que ça soit le peuple, tous sont tombés, et dans l'idolâtrie, et dans ces pratiques-là. Mais pour l'Église aujourd'hui, c'est pareil. Nous savons que il y a des chrétiens soi-disant et qui connaissent le Christ, qui sont dans des églises, qui font par exemple du yoga, ou qui vont vers des médecines parallèles à côté, qui ils ne se rendent même pas compte que ces médecines-là, hein, par exemple, la sophrologie, la musicothérapie, n'est-ce pas, toutes ces choses, que, avec des mots bien sûr scientifiques, n'est-ce pas, parce que le diable aujourd'hui, il s'est caché quoi, il s'est caché dans la science. D'ailleurs, c'est tellement intéressant, c'est que le mot sorcellerie dans le grec, le mot grec de dans la sorcellerie, c'est pharmakeia. Nous avons sorti le mot pharmacie. Comment se fait-il que nos pharmacies, elles aient le serpent, n'est-ce pas, au-dessus du, hein, comme symbole, Esculape. Oui, par rapport à Moïse avec le serpent, mais ils ont pris ce symbole-là. Pharmakeia, dont nous avons sorti le mot français pharmacie. Mais le mot est occulte. Dans le grec, le mot est occulte. Et dans l'hébreu, c'est encore pire. Kassam, Kassem, Kassim. On trouve une diversité dans l'œuvre du diable. Par exemple, dans le spiritisme, l'apparition des morts. Ceux qui invoquent les morts. On va le voir ce soir, hein, dans l'enseignement. La danse du ver. On va faire danser le ver. On va faire tourner les tables. Le parler en état de transe. Parce que le parler en état de transe, c'est pas le parler en langue dont je parle, hein. C'est que les gens, ils prennent des drogues, n'est-ce pas, pour commencer à parler dans d'autres langues. C'est des langues diaboliques, n'est-ce pas? Le parler en transe. Et l'écriture automatique. L'écriture automatique. La main est guidée et la main écrit parce qu'elle est guidée par un esprit. Puis la mancie, la cartomancie, l'avenir dans les cartes. La chiromancie, l'avenir dans ta main. Si la ligne est courte, tu vas vivre peu de temps. Si elle est longue, tu vas vivre longtemps. Quelle foutaise. L'astrologie, et je vous ai dit la fumisterie de l'astrologie. Hein? Je suis le signe de la Vierge. Ah, c'est bien, tu es vierge. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour moi aujourd'hui? Et il y a, je sais pas combien de vierges sur la surface de la Terre. Tous regardent l'horoscope. Mais tous n'ont pas la même journée. La baguette et le pendule. Ça se transmet de père en fils. Là, il y a de l'eau. Le pendule. La baguette. Vous voyez, la baguette est faite comme ça. Là, il y a de l'eau. L'arithomancie. La divination par les chiffres. On dira peut-être aujourd'hui la numérologie. Pareil. La cafémancie. On regarde dans le marc de café pour avoir des présages. La cristallomancie. La divination à l'aide de cristaux. La captomancie. L'utilisation des miroirs. La cibomancie. Le GDD. La géomancie, procédé divinatoire consistant à jeter de la terre sur une table et à étudier les figures formées. La ruspicie, on va en parler ce soir, la ruspicie, divination par l'examen du foie d'un animal ou des viscères d'un animal. L'oniromancie, les songes. La pyromancie, divination par le feu. La solmancie, la divination par le soleil. La téframancie, la mancie par l'examen des cendres. Et j'en passe, et des meilleurs. Mais oui, ne faites pas comme ça. C'est dans notre génération, cette chose-là. Mais sortez un petit peu de vos pompes, quoi. Regardez un petit peu. Si là-bas, dans l'Afrique, ils font pas ces choses-là, vous allez voir. Mais là-bas, c'est à l'air libre. Là-bas, c'est caché. Ici, c'est caché, parce qu'on est dans une civilisation occidentale. On est très intelligent. On a inventé des mots pour ne pas dire les mots comme ils disent en Afrique. Mais c'est exactement le principe. Et pareil. Pareil. Alors, vous comprenez bien, si dans nos vies, nous sommes allés voir, n'est-ce pas, un guérisseur, ou nous sommes allés voir une fois, deux fois, trois fois un guérisseur, ou si nous sommes allés voir, comme ce soir, on va voir les médiums, ou des tas de gens comme ça, vous croyez pas que l'ennemi, il vous a pas commencé à vous mettre un petit lien sur le paletot, et deux fois un deuxième lien, et trois fois un troisième lien, jusqu'à ce que tu deviennes tributaire de ce médium, ou de cette personne qui est en train de te raconter pas des bobards, qui est en train de t'amener dans les ténèbres, tout doucement. Et puis, la nouvelle technique en médecine et en chirurgie, l'hypnose. Le magnétisme du guérisseur. J'ai un don, je le tiens de mon grand-père et de ma grand-mère.
Ah oui.
Prenez un petit mouchoir, je vais vous donner un mouchoir, j'ai prié dessus. Qui t'y a prié? La conjuration magique, la suggestion mentale, la magie noire, la magie blanche, les pactes de sang avec le diable, le fétichisme, les esprits incubes et succubes. Et ça alors, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire incubes et succubes? Eh bien moi je vais vous dire une chose, j'en ai vu dans mon ministère pastoral, j'ai vu des personnes, et particulièrement les femmes, hein, qui étaient prises sexuellement pendant la nuit par des démons. C'est possible ça? Mais oui que c'est possible. Les esprits incubes et succubes, ça existe. Ça existe. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Ce soir, on va voir les évocateurs d'esprits mauvais, les spirites, et ce que la Bible appelle les nécromanciens. Ceux qui voient et qui prédisent l'avenir et qui invoquent les morts à partir des morts. Ce que nous appelons aujourd'hui, dans notre jargon du 20e siècle, les médiums. Ma pauvre femme, elle est partie, elle est morte, mais je sais qu'elle vit toujours. Alors je vais voir le médium pour que ma femme me parle, me donne des directions dans ma vie, ou mon mari me parle, me donne des directions dans ma vie. Et vous allez voir quel est le système qu'ils adoptent pour nous tromper, ces gens-là. Et pour nous asservir, n'est-ce pas, à leur soi-disant révélation. Nous allons prendre un premier texte dans Lévitique 19 à partir du verset 31. Le livre du Lévitique, Waïkra, en hébreu, il a appelé. C'est le livre par excellence qui va donner toutes les instructions à ceux qui servent Dieu, c'est-à-dire les Lévites, au niveau des sacrifices, au niveau... Mais dans ce livre-là aussi, Dieu va dire des choses. Il va avertir aussi ses serviteurs, les Lévites. Lévitique 19, verset 31, « Ne vous tournez pas vers ceux qui invoquent les esprits. » Aujourd'hui, ce mot-là, mettez médium. En hébreu, le mot hébreu, hov, en hébreu. Celui qui invoque les morts, c'est l'esprit d'un mort, un revenant, un esprit de python. Tiens, on en a trouvé un dans les Actes des Apôtres, non? Un esprit de python. Et les apôtres ont été confrontés, comme le Seigneur a été confronté, n'est-ce pas? À cette puissance diabolique qui voulait arrêter l'œuvre de l'évangile. Ceux qui invoquent les morts dans le Lévitique, ni vers les diseurs de bonne aventure ou de vin. Alors le mot hébreu va nous dire quelque chose, mais le mot grec va nous montrer quelque chose qu'on n'aurait jamais soupçonné, n'est-ce pas, dans le travail du médium. Vous allez bien comprendre. Les diseurs de bonne aventure ou de vin, en hébreu, yidahoni, celui qui sait, celui qui prétend savoir l'avenir, celui qui a un esprit de divination, un diseur de bonne aventure. Et vous savez le même mot ici, dans la version de la Septante, et c'est là où c'est assez intéressant d'avoir étudié les langues de la Bible. La version de la Septante va vous dire ici le mot egastrimutos. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, le mot gastri, vous savez ce que ça veut dire déjà. Gastri, le ventre, n'est-ce pas? Le médium, c'est quelqu'un qui va faire parler un mort, mais comme un ventriloque, par le ventre. Et le mort va te parler. Mais c'est pas le mort, c'est le démon qui te parle. C'est alors... Je suis tout à fait étonné, n'est-ce pas, que dans nos écoles, pour divertir nos jeunes enfants, on fait venir des magiciens, on fait venir des ventrilogues, on fait venir un tas de gens pareils. Alors ce fameux médium, qui est en réalité quelqu'un qui va faire sortir une voix de lui-même par l'intermédiaire de son estomac. Il va avoir, le démon va parler au travers de lui et va commencer à dire des choses sur la personne qui est décédée. Alors la personne qui est décédée pourrait te dire par exemple, aujourd'hui ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas l'autre, ou place ton argent là-bas, place ton... Mais c'est des mensonges. Pourquoi? Parce que le mot egastrie que nous comprenons, qui sort hors du ventre, mais mutos, qu'est-ce que ça veut dire mutos? Le mot complet egastrie mutos, parce que je vous ai donné egastrie mutos comme mot. Le mot mutos, alors lui, il a quelque chose qui est assez intéressant. C'est que le mot mutos, c'est un discours parlé, mais en général un discours de mensonge dans l'écriture. Un discours de mensonge. Donc, en réalité, le médium, il va tout faire pour te garder, pour soutirer ton fric, mais aussi pour te donner des informations qui, au lieu de t'éclairer, vont te mettre dans une totale confusion. Et tu vas partir dans une dépression. Et tu vas aller te suicider. Vous voyez que c'est intéressant que nous sachions que c'est des gens, des médiums, ce sont des gens qui, tiens, tu vas entendre la voix du mort. En réalité, c'est pas ça. Pourquoi Dieu dit aux Lévites, ne vous tournez pas vers ce qui est... c'est qu'il y a des faux prophètes. C'est que dans l'église du Seigneur, il y a des faux prophètes, comme il y a de vrais prophètes. Il y a des faux docteurs, comme il y a de vrais docteurs. Il y a de faux apôtres, comme il y a de vrais apôtres. Ventriloque, particulièrement qui rend des oracles ou fait des prédictions en parlant du ventre. Que dit Dieu aux Lévites? N'ayez pas recours à eux pour vous rendre impurs. N'ayez pas recours à eux pour vous rendre impurs. Ça veut dire, ne vous rendez pas impurs dans le sens religieux. Ne vous rendez pas impurs dans le sens... parce que ces choses-là, frères et sœurs, ce que vous devez savoir aussi, c'est que cela s'accompagnait aussi de prostitution spirituelle, mais sexuelle aussi. Mais oui. Nous comprenons donc que si, avant de connaître le Seigneur, tu as été confronté à de telles personnes, je parle de médiums, mais je parle aussi de marabouts, je parle de gens qui, n'est-ce pas, ont un pouvoir, n'est-ce pas, sur les gens, un pouvoir qui va les rendre aveugles, qui va les rendre sourds, un pouvoir qui va les asservir à leur révélation. On va chercher un médium ou un marabout pour jeter un sort sur une personne, pour faire quelque chose de mauvais. C'est jamais du bien, n'est-ce pas? C'est toujours du mauvais. Vous savez ce que nous sommes en train de dire ce soir, tout haut, que je suis en train d'enseigner tout haut, ne fait pas plaisir à l'ennemi ce soir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que celui qui entend cette chose ce soir, ici, il est responsable de ce qu'il entend. Et Dieu ne tient nullement pour innocent celui qui a été coupable. Mais auprès de Dieu, il y a pardon, miséricorde et grâce. C'est pour ça que la confession est une puissance qui enlève tout droit à l'ennemi sur nos vies. N'ayez pas recours à eux pour vous rendre impurs. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi irions-nous chercher dans les ténèbres alors que nous pouvons trouver cela dans la lumière, frères et sœurs? J'ai pas besoin d'aller consulter un marabout ou un médium ou un spirit pour avoir mon avenir. J'ai besoin de savoir ce que Dieu veut me dire pour ma vie. Lévitique 20, verset 6. Toujours dans le livre qui est en rapport avec le service, avec le corps sacerdotal. Et l'âme, c'est-à-dire la personne qui se tournera vers ceux qui invoquent les esprits, aujourd'hui donc les médiums, et vers les diseurs de bonne aventure. Regardez ce qu'il est dit. Se prostituant. C'est-à-dire, en consultant ce type de personnage, pour ceux qui connaissent Dieu, vous êtes en train de commettre un adultère spirituel. Parce que le mot zana en hébreu veut dire commettre la fornication, commettre un adultère, être prostitué, jouer la fille de joie, commettre l'adultère spirituel avec les magiciens, les devins, être infidèle à Dieu. Qu'est-ce que dit Dieu ? Après eux, je mettrai ma face contre cette âme-là et je la retrancherai du milieu de son peuple. Vous savez comment il retranchait ces personnes-là ? Il les lapidait à coups de pierre. Mais aujourd'hui, nous avons cette grâce d'avoir Jésus. Lui, il a payé pour tout ça. Il est mort pour nos péchés et pour nos iniquités. Son sang nous purifie. Mais nous devons marcher dans la lumière, n'est-ce pas? Jésus dit, si ton œil est dans les ténèbres, combien grandes sont les ténèbres en toi? Lévitique 20:27, un peu plus loin. Lévitique 20:27. Si un homme ou une femme sont évocateurs d'esprit, c'est-à-dire aujourd'hui médium, ou diseurs de bonne aventure, c'est-à-dire devins, ils seront certainement mis à mort, on les lapidera avec des pierres, leur sang sera sur eux. Vous vous rappelez de fameux Saül, qui au début de son règne de roi, au moment où Samuel vivait encore, Samuel le prophète, n'est-ce pas? Il avait éradiqué à cette époque-là tous les évocateurs d'esprit et les diseurs de bonne aventure. Nous trouvons ça dans 1 Samuel 28 et verset 3. Il est dit, Samuel était mort et tout Israël s'était lamenté sur lui et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Et Saül avait ôté du pays les invocateurs d'esprit et les diseurs de bonne aventure. Souvenez-vous ce que Dieu a dit à Israël. Vous prenez le livre du Deutéronome. On va aller au verset 18. Au chapitre 18, pardon. Et on va lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Quelqu'un va le lire. Deutéronome 18, verset 9. Au verset 14. Amen. Voyez-vous les recommandations de Dieu à son peuple? Le peuple de Dieu est un peuple particulier. Le peuple de Dieu ne se mélange pas avec le monde. Il y a un terrible danger qui nous guette. Et ce terrible danger, frères et sœurs, c'est nos sentiments. Nos sentiments dominent le plus souvent sur la parole de Dieu. Notre humanisme, c'est quelque chose qui est abominable. Nous voulons être meilleurs que Dieu. En choisissant ce que nous voulons faire et en ne regardant pas à l'excellence de la parole de Dieu, nous sommes en grand danger. Moi et vous et moi. Il y a un proverbe du monde qui dit ceci. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Dis-moi quelles sont tes fréquentations et je te dirai qui tu es. La gentillesse d'une personne, peut-être sa bonté naturelle, peut-être sa sympathie naturelle, n'a rien à voir avec ce que la parole de Dieu nous déclare. L'apôtre Paul nous dit, Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Mais nous faisons notre salade. Nous faisons notre mayonnaise. Nous nous accommodons des choses de Dieu. Après tout, cette fréquentation ne peut pas me faire de mal. Mais je vais vous dire une chose, frères et sœurs. La nature même nous enseigne, hein. Vous devez manger 5 fruits par jour, n'est-ce pas? Alors, mettez une orange qui commence à pourrir avec d'autres oranges qui sont saines dans un panier, et vous verrez au bout d'un moment comment vont être les autres oranges. Les figues aussi, toutes sortes de fruits. Et vous vous apercevrez, c'est insidieux. Ça vient pas de telle manière à vous frapper tout de suite, parce que c'est dilué. C'est dilué. Et après tant et tant d'années, vous vous dites, mais comment se fait-il que je me suis pas rendu compte avant de cette chose-là? Tu sais, hein, moi j'étais aussi fatigué, hein, et j'ai eu mal ici aussi, mais je suis allé voir ce guérisseur là-bas, tu devrais aller le voir. Ou tu devrais aller... Le bon conseil de la bonne amie ou du bon ami qui va te mettre et qui va te traîner dans les bras du diable. Tu sais, le yoga c'est bien, ça te donne une parfaite maîtrise de toi. Tu fais le vide à l'intérieur, tu es bien, tu es... Mais la parole de Dieu nous dit pas de faire le vide. Elle nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit pas de faire le vide. La parole de Dieu nous dit de nous remplir de l'Esprit-Saint. Parce que si tu fais le vide en toi, qu'est-ce qui va venir te remplir? Voyez-vous, ça dure depuis Israël déjà, mais l'Orient nous a apporté, l'Extrême-Orient nous a apporté des doctrines de démons. Ah, si j'avais plus de temps, je vous le dis, si j'avais plus de temps, et si vous aviez plus de temps, vous verriez que les choses ne sont pas vaines de ce que nous disons. Quand vous pensez que il y a quelques années en arrière, le prix Nobel de la paix a été donné au Dalai Lama, Tibet, lévitation transcendantale, repère de démons, tout le monde a applaudi. On va recevoir sa sainteté, le Dalai Lama, Madame Sarkozy, tout le monde, et bien sûr, tu comprends, les chats, ils font pas des chiens. Donc Dieu dit, quand tu rentreras, ô Israël, dans le pays que l'Éternel t'a promis, tu ne feras pas comme c'est les abominations de ces nations-là. Il se trouvera pas au milieu de vous, n'est-ce pas? Personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille. Parce que, à l'époque, il y avait dans ces pays de Canaan et dans les peuplades et environnantes, ils sacrifiaient leurs enfants à des idoles. Vous le trouvez dans l'écriture, les Molochs. Les Marduk et toute la bande et tout le panthéon des idoles. On jetait au feu sa fille ou son fils. Les premiers-nés, on les jetait au feu. Pour s'attirer les faveurs, n'est-ce pas, des idoles. Quelle honte. Et Israël est tombé dans ces choses. Et l'Église est tombée dans ces choses. Dieu considère ça comme un adultère spirituel. Vous savez ce que c'est un adultère spirituel? C'est comme si tu trompais le Christ. Tu vas chercher dans les ténèbres les choses que Dieu veut te donner dans la lumière. Alors le brave Saül, n'est-ce pas, au commencement de son règne, parce que Samuel était là, il y avait une autorité de Dieu encore qui régnait sur Israël. Il n'y avait pas un plus grand prophète que Samuel. Dès que Samuel est mort, voilà que Saül, il retombe dans les mêmes travers. Et à la fin de sa vie, Saül, dans le livre de Samuel, au chapitre 28, verset 7, Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui invoque les esprits, et j'irai vers elle, je la consulterai. » Et ses serviteurs lui dirent, « Voici, il y a à Endor une femme qui invoque les esprits. » Il les avait éradiqués au départ de son règne. À la fin, il est tombé dans le même piège. Tant qu'il n'y a pas l'homme de Dieu pour dire la parole de Dieu, tant que Samuel était là, la parole de Dieu était donnée et tout le monde se tenait à carreau. Dès que Samuel meurt, alors on fait ce qui nous semble bon. Mais est-ce que tu crois que tu diriges ta vie? Si tu appartiens à Christ, tu es esclave du Seigneur. Tu ne diriges pas ta vie. Si tu veux diriger ta vie en disant que tu appartiens au Seigneur, tu te mets en rébellion contre Dieu. Nous étions esclaves de Satan, nous sommes devenus esclaves du Seigneur. Alléluia. Mais je préfère de celui qui me dit, venez à moi, car mon joug est léger et mon fardeau facile à porter, plutôt d'avoir un fardeau qui te pèse sur les épaules, sur lequel tu ne peux pas t'en défaire, parce que tu es dans l'obstination de tes pensées, et parce que tu restes dans cette obstination, ton fardeau te pèse, parce que l'ennemi, il en rajoute par-dessus. Samuel 28, 9, la femme qu'il vient consulter va lui dire ceci. La femme lui dit, voici, tu sais ce que Saül a fait, qu'il a retranché du pays les évocateurs d'esprit et les diseurs de bonne aventure. Et pourquoi dresses-tu un piège à mon âme pour me faire mourir? Cette femme a cru que Saül, venant la consulter, lui tendait un piège pour la faire mourir. Mais non. Saül, il venait pour consulter cette invocatrice d'esprit. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose, les sœurs. Je n'ai rien contre vous, je vous aime, toutes les mes sœurs. Mais les sœurs sont plus sensibles aux esprits et à l'esprit de Dieu que les hommes. La partie féminine, elle est plus réceptive aux choses de l'esprit que l'homme. L'homme, il faut qu'il travaille beaucoup dans sa foi pour capter la voix de l'esprit. La femme, chez elle, c'est quelque chose que Dieu a mis dans la femme, c'est inné. Elle reçoit de Dieu les choses directement. Elle n'a pas besoin de beaucoup travailler pour les recevoir. L'homme, il doit travailler beaucoup, mais pas la femme. C'est pour ça qu'il y a une complémentarité dans les ministères. C'est pour ça qu'il y a une complémentarité dans les couples. Là où moi je dois travailler beaucoup, ma femme sait les choses avant moi. Mais il y a des choses que ma femme ne sait pas que Dieu me dit à moi, parce qu'on n'a pas la même capacité à recevoir les choses de Dieu. La femme est beaucoup plus sensible à l'esprit de Dieu. Merci mes sœurs. Dans l'esprit, les hommes feraient bien d'écouter leurs femmes. Hein, mes frères? 2 Rois 21:6. Est-ce que vous savez que le premier livre des rois et le second livre des rois n'existaient pas? C'est quand on a fait un découpage comme ça, mais c'était 1 Samuel, 2 Samuel, 3 Samuel et 4 Samuel à l'origine. Deux rois, 21:6. Alors, je vous dis pas que ceux qui étaient à la tête, les gouvernants à la tête du pays, n'est-ce pas, comme Israël, les rois, ils ont... Alors, c'est marrant parce que vous avez un livre où il y a... Vous voyez, et voilà, le roi Josias a vécu tant en temps, sa mère était éteinte, il fit ce qui était bon à l'Éternel. Le roi d'après, et nanana, il fit ce qui était mauvais à l'Éternel, aux yeux de l'Éternel. Et c'était mauvais, et bon de temps en temps, et mauvais. Parce que chaque fois que le peuple s'éloignait de la parole de Dieu, il tombait sous le piège du diable. Deux rois, 21, verset 6. Oh, attendez. Non, on va se faire plaisir. Hein. Et vous savez qui c'était ce roi-là? Le pire des rois qui a eu le règne le plus long des rois. 50 ans, il a enquiquiné Israël. Le fils d'Ézéchias. Celui qui a fait le plus grand réveil en Israël, Ézéchias, voilà que son fils, il va faire la plus grande destruction en Israël. 50 ans il a régné Manassé. Et on dit que c'est à cause d'Ézéchias qui, à la fin de sa vie, n'est-ce pas, après avoir été béni par l'Éternel, il a commencé à la fin de sa vie, alors que l'Éternel lui avait donné 15 ans de plus à vivre, qu'Ézéchias, n'est-ce pas, au lieu de vivre ses 15 ans au service de l'Éternel, il a commencé à faire des villes, à faire des scies, à remplir ses trésors, etc., etc. Et son fils, il a vu la chose. Et quand son fils a pris la suite du père, Manassé, alors voilà ce qu'il a fait. Tout ce que son père avait fait, par terre. Manassé était âgé de 12 ans lorsqu'il commença de régner. Il régna 55 ans à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Ephtsiva. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les fils d'Israël. Et il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits. Et éleva des autels à Baal. Il fit une asère, c'est-à-dire une forme féminine d'une idole. Ça, tiens, ça me fait penser à quelque chose. Comme avait fait Akab, roi d'Israël, il se prosterna devant toute l'armée des cieux, c'est-à-dire il se prosterna devant toutes les étoiles, toute l'astrologie. Et il les servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, de laquelle l'Éternel avait dit, c'est dans Jérusalem que je mettrai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans le temple, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il pronostiquait et pratiquait les enchantements. Il établit des évocateurs d'esprit et des désirs de bonne aventure. Il fit outre mesure ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, pour le provoquer à la colère. Quand un gouvernant d'un pays se met à faire ça, tout le peuple va suivre. Frères et sœurs, nous vivons dans nos pays, nous vivons sous une puissance démoniaque. Je m'excuse, mais il faut que je dise les choses. Le gouvernement français, hein, alors Dieu a établi les choses, Dieu les a mis, mais Dieu a un plan. Mais ce que je sais, c'est que le gouvernement français, au 4/5, est franc-maçon. Et l'autre 5e, c'est la Rose-Croix et tout le reste. Nous sommes nos régions. Tous les postes clés de nos régions sont sous la main des francs-maçons. Et vous comprenez pourquoi il y a tant de problèmes. Deux rois 23-24, voilà qu'un roi arrive. Un roi tel qu'il n'y en a pas eu un autre, comme celui-ci, comparable à Ézéchias. C'est Josias qui arrive. Josias, un homme de réveil, un homme qui est revenu à la parole de Dieu, un homme qui servait Dieu. Qu'est-ce qu'il fait dès qu'il commence à régner? De plus, Josias, deux rois 23-24. De plus, Josias fit disparaître ceux qui invoquaient les esprits, aujourd'hui les médiums, et ceux qui prédisaient l'avenir, aujourd'hui les devins, et les théraphimes, c'est-à-dire les petites idoles qu'on avait dans les maisons. Hein, vous savez, les petites idoles. Des petites statuettes, je vais m'expliquer un peu mieux. Tout ce qu'on met là pour se rassurer, et puis le reste, quoi. Et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi, écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkia avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Il est revenu de tout son cœur à la parole de Dieu. Il nous faut revenir de tout notre cœur à la parole du Seigneur. Pourquoi nos vies ne sont pas pleinement épanouies? Pourquoi ne sommes-nous pas des hommes et des femmes remplis de l'esprit tel que le Seigneur voudrait? C'est parce que notre marche avec le Seigneur n'est pas conforme à la révélation de la parole de Dieu. On va voir un peu ce Manassé dans 2 Chroniques 33:6. Vous allez voir ce qu'il va faire, lui. Parce que voilà une autre façon de deviner. On va la voir. 2 Chroniques 33:6. Alors, je vais vous donner d'abord la version Darby et je vais vous donner ensuite la version Second pour que vous compariez les deux traductions. 2 Chroniques 33:6. Alors, je commence par la Darby. Et il, entre parenthèses, donc Manassé, fit passer ses filles par le feu dans la vallée du fils de Hinnon. Vous savez ce que c'est que la vallée de Hinnon? C'est la vallée où à Jérusalem, c'était la vallée où on jetait toutes les ordures. Et il y avait un feu qui était constamment allumé pour brûler les ordures. C'était la symbolique de l'enfer, la vallée de Hinnon. Et jour et nuit, le feu brûlait dans cette vallée pour que les ordures soient détruites. Donc, le brave Manassé, il faisait passer par le feu ses fils dans cette vallée-là. Il pronostiquait et pratiquait les enchantements et la magie. Il établit des évocateurs d'esprit, aujourd'hui des médiums, et des diseurs de bonne aventure, des devins. Il fit outre mesure ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel pour le provoquer à la colère. Maintenant, je vous lis l'autre version qui me semble un peu plus appropriée. Pour une fois, Second l'a bien fait. Il, donc Manassé, fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnon. Il observait les nuages. Ça, c'est juste. C'est le mot en hébreu. Et les serpents. Ça veut dire que les serpents, quand ils serpentaient, leur façon de serpenter, c'était, on était en train de faire une divination en interprétant les reptations des reptiles. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Tiens, pronostics. Le PMU. Le loto. Je te gratte. Il s'adonnait à la magie. Il établit des gens qui invoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Ésaïe 8:19. Et s'ils vous disent, enquérez-vous des évocateurs d'esprit, c'est-à-dire des médiums, et des diseurs de bonne aventure, c'est-à-dire les devins, qui murmurent et qui chuchotent, un peuple ne s'inquiète-t-il pas de son Dieu? Ira-t-il aux morts pour les vivants? C'est clair, hein? Ésaïe 8:19. Un peuple ne s'inquiète-t-il pas de son Dieu? Ira-t-il aux morts pour les vivants? Ésaïe 19:3. Et l'esprit de l'Égypte s'en ira au milieu d'elle. Je détruirai son conseil. Ils s'enquerront auprès des idoles et auprès des nécromanciens et des évocateurs d'esprit et des diseurs de bonne aventure. Mes frères et sœurs, constamment dans l'écriture, vous voyez le peuple de Dieu, se détourner de Dieu pour aller vers les ténèbres. D'ailleurs, me vient à l'esprit ce passage de l'écriture dans le prophète Ésaïe où il est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu luire une grande lumière dans le pays de Zabulon et dans le pays d'Éphraïm. Qui était cette lumière? C'est Jésus. Amen. Le peuple qui vivait dans les ténèbres, et nous vivions dans les ténèbres, il avait luire une grande lumière. Frères et sœurs, le meilleur moyen de nous délier de ces choses, si nous les avons faites, si nous les avons pratiquées, il n'y a rien d'innocent. Il nous faut les confesser. Il nous faut demander le pardon du Seigneur. Invoquer le sang de Jésus pour que nous soyons purifiés et que nos consciences soient libérées. trop de personnes, avant de connaître le Seigneur, sont allées vers ces choses-là, d'une manière comme d'une autre. Et nous ne pouvons pas suivre Jésus, n'est-ce pas, en ayant donné accès à l'ennemi dans nos vies. Nous devons nous séparer des choses anciennes. Vous vous souvenez ce que disait l'apôtre Jean ? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et surtout pour nous purifier de toute iniquité. Or, l'iniquité, c'est le péché pratiqué. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute notre iniquité. Si nous disons que nous marchons dans la lumière comme lui-même est lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, alors le sang de Jésus nous purifie de chaque péché. De, pas de tout péché, de chaque péché, dit l'Écriture. Chaque péché. Nous devons, au vu de l'Écriture, voir si nos conversions se sont faites d'une bonne manière. Nous devons avoir un regard sans indulgence sur nous-mêmes. Savoir si notre conversion, elle s'est faite selon les normes de Dieu et non pas selon nos normes à nous ou les normes de l'Église ou les normes du pasteur. Seule la parole de Dieu peut éclairer. Tu l'as lu comme moi. Tu as lu comme moi la parole de Dieu ce soir. Tu as lu ce que le Seigneur disait. Maintenant, tu en es responsable devant Dieu. Mais il y a des personnes qui viennent au Seigneur et moi je parle, j'en ai entendu dans ma vie, j'en ai entendu. Il y a des gens qui sont venus, des sœurs qui sont venues au Seigneur, qui sont rentrées dans l'Église, alors que ces personnes avaient fait 3, 4, 5 avortements. Et vous croyez que Dieu nous prend comme ça? Vous croyez que Dieu lui dit, tiens mon fils, viens, je t'aime. Alors, je me demande pourquoi, frères et sœurs, Christ est mort à la croix et pourquoi le sang a été versé. Si Dieu est amour et il pardonne à tous, alors pourquoi Jésus est venu mourir à la croix et verser son sang pour nous? Vrai ou pas? Pourquoi est-il venu mourir à la croix et verser son sang pour nous? Si Dieu s'en fout de nos péchés, si Dieu se cache la face pour pas voir que nous avons péché, mais justement, Dieu ne se cache pas sa face, il a donné son propre fils sur la croix. Il a été brisé pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos péchés. Et le châtiment qui devait tomber sur nous, je dis bien le châtiment qui devait tomber sur nous, est tombé sur lui et c'est le gage de notre paix. C'est pourquoi l'Écriture dénonce ces choses. Et c'est pour ça que ce soir je dénonce ces choses. Parce que j'ai le désir dans mon cœur, et vous devriez avoir ce désir dans votre cœur, d'être agréable à Dieu. Vous savez très très bien que ce que dit l'Écriture, celui qui cache ses transgressions, ses iniquités, ne prospérera point. Il n'y a pas de prospérité spirituelle si tu caches, si tu mets dans les ténèbres ta vie. Mais celui qui les confesse, qui les avoue et qui les délaisse, obtient miséricorde de la part de Dieu. Proverbe 28, 13. Vous pouvez vérifier. Proverbe 28, 13, et vous le lisez à haute voix. Allez, lisez-le. Comme ça, vous aurez entendu, vous le lirez vous-même. Vous entendrez vos voix. Proverbe 28, 13. Voyez-vous, frères et sœurs, le fait de cacher son péché, ça empêche la prospérité spirituelle. Mais celui qui les confesse, les avoue et les délaisse, il obtient la miséricorde de Dieu. Bien sûr qu'il obtient, À partir du moment où c'est confessé, le sang de Jésus peut agir. Que Dieu soit béni. Que nous puissions avoir de tels enseignements pour bien comprendre, n'est-ce pas? Il y a un passage de l'Écriture qui dit « Ô Éternel, convertis-moi et je serai converti. » Convertis-moi et je serai converti. Parce que si tu te bats sur ta conversion, tu vas avoir quelques petits problèmes. Si elle n'a pas été faite dans la norme de Dieu. Alors vous avez vu, il y a toutes sortes de divinations. Hein? Maintenant on a mis des mots scientifiques bien sûr, mais il y a les perceptions extrasensorielles. Il y a des choses qui sont là et qui sont, vous les sentez à l'air libre quoi. En tout cas, vous n'êtes plus quoi? Ignorant. Vous n'êtes pas ignorant. La balle est dans votre camp comme elle est dans le mien. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net